vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour, pour la première fois, Cinérama se met en mode été, mais il n'y a qu'une partie de l'équipe qui prend les micros, l'autre enfilant le maillot de bain. Dans cette formule été, on a voulu vous proposer ce qui fait le cœur de l'émission, les blind tests, soit l'occasion eh bien, d'écouter de larges extraits de films, des blind tests que l'on a piochés dans les anciennes émissions. Alors pour débuter, vous allez pouvoir jouer à reconnaître des films qui se déroulent à la plage, au bord de l'eau, sur une île ou sur un bateau. Dans la deuxième partie, nous vous parlerons de l'actualité du cinéma. Avec trois premiers films, il y aura le thriller sud-coréen Lucky Strike et deux drames, le franco-belge La forêt de mon père et le britannique L'envolé d'Eva Riley. Et on prendra le temps également de rendre hommage à Ennio Morricone. Bienvenue dans la formule été de Cinérama.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
On commence cette série de blind tests consacrés à la mer et aux océans avec les films qui se passent pour partie à la plage. C'est un lieu rarement neutre au cinéma, soit les personnages s'y rencontrent, flirtent la plupart du temps, soit un animal marin y rôde, mais on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait pas quoi faire comme Anna Karina dans Pierrot le Fou. Alors ce film n'est pas dans les 5 extraits que nous vous proposons d'entendre. Voici le premier blind test tiré d'une émission d'il y a 3 ans.
This is Cinérama.
Blind test sonore pour découvrir alors bien au travers de 5 extraits des films qui se déroulent soit sur la plage, soit la baignade est plutôt déconseillée, soit eh bien est plutôt agréable, et ça va être peut-être du plus facile au plus difficile.
Cause du décès, attaqué par un requin.
Tiens.
Ah, c'était trop facile, évidemment.
C'était le temps de la mer.
Oui. Film de 75 de Steven Spielberg, encore un facile dans un autre style.
Tout le camp lui est passé dessus.
Oh.
Tu t'es jamais faite, toi?
Ah non, moi non.
Tiens donc, pourquoi ça?
Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors.
Moi aussi, j'ai eu les polyvalents dans mon salon.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça?
Ouais, j'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis la Dadjo d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
On aurait pu choisir plusieurs extraits, évidemment. Ça a été trouvé. Hein.
Eh ben, Les Bronzés de Patrice Lecomte.
Film de 78. Encore un, normalement quelque chose de facile.
27 banques en 3 ans. Mon Dieu. Tout le travail en 90 secondes. Et personne se fait tirer dessus. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une équipe solide de professionnels.
Ouais, ils bougent bien.
Tu parles. Ils ont une parfaite maîtrise de l'espace. Et ils se cantonnent seulement au guichet.
Ils s'attaquent pas au coffre?
Non, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avides à ce point-là.
C'est pas con, ça ferait gaspiller du temps.
Et ça, t'as tout compris. C'est Regan qui fait le chauffeur. Toujours une voiture volée. Il laisse le moteur tourner, là, sur le trottoir. De loin, elle paraît bien garée. Et après la fuite, ils s'en débarrassent et disparaissent. Comme la virginité un soir de surboom. Bouffé par la nature. Psst.
Ah, petite blague aussi, hein. Mais c'est pas les mêmes. Ça a été trouvé par Marine.
C'était Point Break.
Oui. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, oui. Grand succès des années 90.
Grand jeu d'acteur aussi. Hein.
Et qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs.
Très mauvais.
Très mauvais que tu avais chroniqué, Manu.
Quatrième extrait.
Premièrement, Charlie ne nous a jamais présenté de fille.
Si, Camille.
Mais non, il était en cinquième, ça compte pas. Deuxièmement, et... enfin, je sais pas, moi, ça crève les yeux. Tu vois bien que Martin est son petit ami.
Bon, enfin, ça fait un an qu'ils se sont pas vus.
Justement, à cet âge-là, on se fâche pas comme ça, sauf pour des raisons sentimentales.
Mais enfin, Charlie fait du foot.
Troisièmement, et ça c'est l'argument qui tue, Charlie et Martha ne dorment pas dans la même chambre. On n'a jamais vu des ados faire chambre à part. Sauf s'ils veulent cacher quelque chose.
Tu dis n'importe quoi, tu affabules.
Alors.
Tu affabules.
Oui, on est dans un film français, Marine. Donc, ça n'a pas été trouvé. Alors, Valeria Bruni Tedeschi, qui...
Beau dimanche, non, c'est pas ça.
Non, qui voit que leur fils est visiblement homosexuel. Il va découvrir l'homosexualité avec Jean-Marc Barr. Crustacé coquillage de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Mm-hmm. Ah, vous êtes passé à côté. Bon, bah oui, bah, il faut voir ça. Dernier extrait.
Dents de rasoir.
C'est quoi, dents de rasoir?
Vous avez vidé le bassin?
Oui, on a retrouvé...
Vous les avez laissés filer?
Mais laissez filer qui?
Oh, ça va.
De qui parlez-vous?
Allons, monsieur, allons. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi! Détachez-moi!
Je vais voir si ce n'est pas vous, l'inconscient, monsieur.
Détachez-moi! Si vous saviez, ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin. Bon Dieu, reprenez vos esprits. Que sont devenus les deux jeunes? Ça, c'est un secret, je peux rien dire. Miséricorde, ils vont tous nous tuer.
D'accord, puisque c'est comme ça, ce sont les flics qui vous arracheront des amis.
Miséricorde, mais c'était Piranha.
Oui, bravo au film de Jodorowsky, donc de 78, qui a fait l'objet d'un remake, encore une fois. Mais plutôt réussi.
Ah, plutôt réussi, oui. Deux remakes même.
Deux.
Parce qu'il y a eu une suite à Piranha 3D, deux.
Ah ça, oui.
Piranha 3D2.
En tout cas, ainsi s'achève ce blind test spécial Plage et Baignade, qui pourra revenir, parce que des films, il y en a quand même pas mal. Qui dit plage dit traversée. Ce sont maintenant 5 extraits de films mettant en scène une traversée de la mer ou d'un océan que nous vous proposons. On retourne encore une fois dans nos archives, mais on ne va pas très loin, car nous avions diffusé ce blind test il y a seulement un an.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
On va écouter 5 extraits. Premier extrait, et c'est extrêmement facile.
Obéissez au monsieur, ma fille. Montez dans
le canot, ces messieurs vont s'occuper de vous.
Une petite place pour un gentleman?
Messieurs, uniquement les dames.
Est-ce que nous sommes placés dans les canots selon la classe? Oh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Oh, maman. La ferme! Vous ne comprenez pas? Cette eau est glaciale et il n'y a pas assez de canots. Pas assez pour tout le monde. La moitié des passagers de ce paquebot va mourir.
Pas la meilleure moitié.
Venez, Rousse, dans le bateau. Les premières classes sont placées juste ici.
C'est dommage que je n'ai pas gardé ce dessin. Il aura beaucoup plus de valeur demain.
Vous êtes un incroyable salaud.
Ça a été trouvé, évidemment.
Oh, Titanic.
Et oui, donc le film, quand même, vu par plus de 20 millions de personnes en France. Et bon, ça, c'était la vision catastrophique hein, quand on se retrouve sur les flots. Mais il n'y a pas que ça.
Auriez-vous oublié votre promesse?
Soumise aux impératifs du service. Je ne peux en conscience nous retarder pour l'étude d'un pécari géant ou d'un iguane. Fascinant, je vous l'accorde, mais sans utilité immédiate.
Il y a là, je crois, une opportunité réelle de combler respectivement nos attentes. Cette île est longue et étroite. Votre route va nous obliger à la contourner. Or, je pourrais la traverser et me trouver
Stéphane,
de l'autre côté.
Stéphane, par expérience, je vous sais capable d'observer un nid d'oiseau vide pendant des heures.
J'avancerai sans m'attarder, ne m'arrêtant ici et là que pour effectuer les mesures les plus importantes. Et par là même faire des découvertes qui assurément viendront enrichir notre savoir en histoire naturelle.
Nous aurions le vent et la marée contre nous, je vous l'accorderai. Ce n'est pas le cas, et je me vois contraint de dire non.
Je vois. Ainsi, après tout ce temps passé au service de mon pays, je n'ai qu'à me résigner à prendre part à cette expédition guerrière sans porter de jugement. Je devrais me réduire à ignorer de pures merveilles et ne penser qu'à la destruction. Et encore, je ne dis rien sur la corruption du pouvoir.
Pensez-vous, docteur, vous vous égarez.
Non, Jack, non.
Et ça a été trouvé, un capitaine et un chirurgien naturaliste. C'est
Master and Commander de Peter Weir.
Film sorti en 2003 qui a réuni presque 1 million de spectateurs en France. Troisième extrait.
La sortie est par là. Et c'est notre seule chance.
Mesdames et messieurs, ne l'écoutez pas. Nous devons rester ici en attendant du secours et nous ne bougerons pas.
Du secours d'où? Du commandant, peut-être. Il est mort. Toutes les personnes qui étaient sur le pont au moment où le navire a basculé sont mortes parce qu'elles se trouvent maintenant au-dessous de nous, sous l'eau. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est faux!
Non, c'est la vérité, imbécile prétentieux! Il n'y a personne de vivant à part nous. Et nous ne pouvons compter sur personne excepté sur nous-mêmes. C'est l'affaire de chacun de vous. Nous sommes tous concernés. Tous! Ne perdez pas de temps, venez avec moi!
Je vous interdis de le suivre! Il ne connaît rien à ce bateau, il nous mène à la mort!
Le commissaire a raison!
Pas de vos affaires!
On retourne du côté de la catastrophe.
Je pense que j'ai retrouvé. Ça doit être l'aventure du Poséidon, oui. Et c'est la voix de John Hackman d'ailleurs.
Oui. En prêtre. Oui, je dirais, prêtre. De 2011, non, ce film.
1972. Le film de Ronald Nim.
Oui. Mais merci pour cette précision.
Il est imbattable.
Plus de 2 200 000 personnes sont allées voir ce film catastrophe. Donc on retourne bien du côté de la solitude.
Moi, Yann Kermadec.
Oui, Yann.
Et toi? Ton nom?
Mano Ixa.
Écoute-moi bien, Mano Ixa. Tout ça, c'est ma course. Je te dis même pas dans quelle merde. Bon. Moi, je vais te prendre, toi, et je vais te déposer quelque part. Tu comprends? Par là. Toi? Par là. Tu sais nager, au moins?
Alors, c'est un film français, mais c'était moi qui l'avais chroniqué dans cette émission. Et
ah, c'est pas les Clusés? C'est pas le...
C'est Cluzet qu'on entend.
C'est Cluzet. Ah oui, je vois ce que c'est.
Ouais, mais alors c'est très simple d'ailleurs, ça s'appelle En solitaire, donc là c'était facile à trouver. Et donc effectivement il réalise une course en solitaire et puis à un moment il a une avarie, il s'arrête au niveau des Canaries et puis là il y a un migrant, un jeune Marocain je crois, qui monte dans le bateau et donc la course en solitaire eh bien, vire à n'importe quoi puisqu'il n'est plus seul. C'était un ratage quand même. Hein. C'était un film de 2013 qui avait réuni 659 000 spectateurs, il y en avait 1 million pour ce dernier film qu'on entend.
Dieu sait pourquoi. On veut nous faire revivre les événements de 1941. Mais qui ça? Les Russes. Peut-être parapsychologique.
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
C'est ridicule.
Peut-être. Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
Mais comment serait-ce possible, monsieur Lasky? Vous pouvez expliquer, vous, une chose pareille?
Non. Mais nous savons tous que la relativité du temps existe. C'est un phénomène qu'Einstein a démontré.
En théorie. Si je vous suis bien, il suffit d'essuyer une bonne tempête et paf, nous voilà redevenus plus intelligents qu'Einstein.
Parce que vous appelez ça une tempête, vous. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu.
À rien de ce qu'aucun d'entre nous a connu.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe. Ce sont des notions aussi insolites que l'électricité au Moyen-Âge ou que ce bâtiment en pleine guerre de 40.
Et ça a été trouvé, c'était
Nimitz, Retour vers l'enfer. Donc, c'est un film de Don Taylor.
De 80. Avec Kirk Douglas et Martin Sheen, voilà.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Ainsi s'achève la partie ludique de l'émission. Voici maintenant l'hommage.
This is Cinérama.
Ennio Morricone est mort ce 6 juillet à l'âge de 91 ans. Vous avez sûrement entendu beaucoup d'hommages. Hein. Peut-être même que vous avez préparé une playlist spéciale pour l'occasion et que vous avez la larme à l'œil. Même si on a fait quantité de blind tests dans l'émission, nous n'en avons jamais fait sur les films dont Ennio Morricone a fait la partie musicale. Ils sont pourtant nombreux. Hein. On compte environ 500 partitions si on veut trouver un compte rond. Alors il y a tous les genres, comédie, policier, horreur, érotique et évidemment western. Ennio Morricone a eu quelques regrets, hein, comme celui de ne pas pouvoir réaliser la bande originale d'Orange Mécanique. Le réalisateur américain n'a pas souhaité se rendre à Rome car il n'aimait pas l'avion, a déjà déclaré le compositeur italien dans une interview. Alors ça tient un peu de choses, hein, les participations au film, entre l'un qui ne veut pas prendre les airs et l'autre qui ne veut pas quitter sa ville. Mais il était comme ça, Ennio Morricone, il a toujours voulu rester à Rome, sa maison. Alors pour lui rendre hommage, j'ai choisi l'anecdote. Elle me vient de ma rencontre avec Yvan Attal. Pas forcément d'ailleurs une belle rencontre, hein, mais dans ce face-à-face que j'ai eu avec l'acteur-réalisateur en octobre dernier pour la promotion de son film Mon chien stupide, Yvan Attal m'a fait partager sa sonnerie de téléphone.
Tous les gens qui sont ensemble depuis des années et qui ont des enfants, pardonnez-moi, c'est mon téléphone, hop, voilà.
Voilà pourquoi on va entendre Le clan des Siciliens, mais puisqu'on retient Ennio Morricone, le compositeur, on va écouter une version préparée par John Zorn. Thank you. C'était John Zorn qui reprenait le thème musical principal du Clan des Siciliens, film d'Henri Verneuil avec le trio Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, dont Ennio Morricone a composé la musique. Attaquons maintenant la dernière partie de l'émission avec l'actualité des salles et les sorties du 8 juillet. Du moins les films que nous avons pu voir. Hein. On commence avec L'Envolée, film britannique d'Eva Riley. Paraît-il que c'est comme du Ken Loach en plus moderne et sensuel. On prend la température avec Marine.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Leite est une jeune gymnaste de 14 ans qui s'entraîne dur et passionnément. La vie de l'adolescente n'est pas simple. Sa mère vient de décéder, son père est quelque peu démissionnaire et la banlieue de Brighton dans laquelle elle vit semble laisser entrevoir assez peu d'avenir. Un beau jour, son demi-frère, fruit d'une relation éphémère entre son père et une autre femme, réapparaît dans leur famille déjà bien dysfonctionnelle. Plus âgé qu'elle, frondeur, insolent, il ne tarde pas à fasciner la jeune Leite qui va s'ouvrir peu à peu à un nouveau monde et se désintéresser en même temps de la pratique de la gymnastique. Mais la gymnastique ne laisse pas de place sous doute. Face à sa professeure qui la sent glisser et devenir absente, Leite renonce de plus en plus fréquemment à ses entraînements et opte pour des passe-temps autrement plus excitants et plus dangereux.
You can't even land. I don't know why she spends the whole session with you.
Yeah, that's probably because you ain't that much fun to hang out with.
Dad?
L'envolée, initialement appelée Perfect Ten, comme la note maximale que l'on peut donner en gymnastique, est le premier film de la jeune réalisatrice écossaise Eva Riley, que l'on avait déjà pu remarquer avec son court-métrage de fin d'études Patriote, en compétition au Festival de Cannes 2015. C'est à la fois une chronique sociale et un film initiatique dans lequel la jeune héroïne va ressentir ses premiers émois amoureux, troublée par une relation quasi incestueuse avec ce demi-frère charismatique qui va faire vaciller sa passion pour la gymnastique. En se rebellant contre l'autorité de ses professeurs et en utilisant ses talents de gymnaste pour mener à bien quelques projets plus ou moins illégaux, Leite va explorer ses limites et se trouver confrontée à ses propres choix. Les deux personnages principaux sont interprétés par Frankie Box et Alfie Diggen, duo de comédiens non professionnels dont la complicité est palpable. Il y a par ailleurs une grande part d'improvisation dans leur dialogue et cela confère au film une certaine légèreté, un rythme et un naturel qui lui évite de verser dans la chronique contemporaine désabusée. Les paysages de la campagne anglaise, rarement filmés de la sorte, sont ici constamment baignés de soleil lumineux, bien loin des images de banlieue sombre et grise sous la pluie que l'on retrouve habituellement dans les drames sociaux anglais. L'Envolée, c'est donc un premier film réussi, rafraîchissant et sincère pour la réalisatrice Eva Riley.
L'Envolée est sur les écrans depuis le 8 juillet. Autre film sur les écrans depuis cette date, le thriller coréen Lucky Strike.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Le cinéma nous l'a déjà appris. Trouver une valise pleine d'argent n'est jamais de bon augure et mieux vaut y réfléchir à deux fois avant de s'emparer d'un bien mal acquis quand on sait que les truands ont rarement des méthodes d'ange pour récupérer leurs biens. On se souvient de No Country for Old Men des frères Cohen avec cette fuite en avant d'un prolo qui tente de garder un magot. Mais avec le thriller coréen Lucky Strike, en salle depuis le 8 juillet, on s'éloigne de ce modèle pour en trouver un autre. Tarantino, sauce asiatique avec les palabres en moins et toute proportion gardée évidemment. Mais il faut bien admettre qu'on pourrait avoir la même jubilation à regarder des personnages dont on se demande lequel va rester à la fin. Et pour un premier film, eh bien, le coréen Kim Jung-hoon marque les esprits. Nous sommes donc en Corée et une histoire de sac Vuitton rempli d'argent va relier différents personnages. On trouve un employé de sauna, un douanier qui a une grosse dette d'argent, son prêteur sur gage et une hôtesse de bar. Mais on a aussi une vieille dame sénile, un flic intrusif ou encore une femme battue. Une galerie de personnages qui orchestre un thriller où se mêlent maîtrise, audace, humour et une dose d'hémoglobine car dans ce long métrage, tous les coups sont permis et y compris dans la mise en scène avec la volonté pour le réalisateur d'avoir recours à deux procédés cinématographiques antagonistes sur le papier. Le chapitrage, pour aiguiller le spectateur, mais aussi un récit enchevêtré avec différents temps, ce qui permet d'aiguiser la curiosité du spectateur, surtout devant la multiplicité des personnages et leur milieu. Comme à la manière du film Parasite de Jon Bong-ho, le grand film de 2019, hein, son compatriote coréen raconte une histoire où l'appartenance à la classe sociale semble avoir une importance. Il en fait un élément du récit, probable que cette thématique était bien présente dans le roman japonais dont est tiré Lucky Strike, un titre qui fait clairement référence à la marque de cigarettes, parce qu'une anecdote tourne autour de ce paquet, et qui n'a été repris qu'en France ce titre. Hein. Mais il faut bien admettre que le titre à l'international, Beasts Clawing at Straws, soit les bêtes griffant la paille, si je ne me trompe pas, eh bien, est un titre assez énigmatique. On prend un vrai plaisir à regarder ce film diversement interprété. Certains personnages étant écrits pour la comédie, ils ont tendance à surjouer. Alors toutefois, on se laisse embarquer dans cette histoire de gros sous pour enfin savoir à qui va profiter le crime. Si l'on reprend la comparaison avec No Country for Old Men des frères Cohen, qui était marqué par un recours aux valeurs humanistes et traditionnelles, ici le récit est plus prosaïque. Hein. On voit poindre la valeur travail, mais aussi la dureté de ce travail et le sentiment qu'il ne paie pas forcément. Toutefois, le film ne tombe jamais dans un esprit de sérieux, bien au contraire. Hein. Autant par les dialogues, les situations que par les personnages, on est bercé entre comédie absurde et thriller, et le dosage est réussi. Lucky Strike est dans les salles depuis le 8 juillet. On termine avec La forêt de mon père, un récit intimiste de la réalisatrice belge Véro Kratzborn.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Il croit que la forêt est à lui, mais là tout le monde. Tout est à nous.
Ouais.
Pour son premier long métrage, la réalisatrice belge Véro Kratzborn n'a pas choisi la facilité et a décidé de proposer un titre faisant autant appel à la poésie qu'au mystère. La forêt de mon père est une invitation à un voyage que l'on n'a pas souvent l'occasion d'entreprendre dans notre quotidien et de croiser des tranches de vie singulières qui forcent à relativiser les problèmes habituels. On prend en route le sympathique Jimmy, incarné par le tout aussi sympathique Alban Lenoir, qui profite d'une balade en forêt pour initier ses enfants à la beauté de la nature. Alors que son entourage pense d'abord que son attitude excentrique est due à la perte récente de son travail, sa famille est bien obligée de se rendre compte que son cas est plus grave. Jimmy souffre d'un début d'épisode psychotique qui va aller en s'empirant, mettant ses proches dans des situations de plus en plus difficiles, en particulier son aîné de 15 ans. L'adjectif possessif du titre désigne donc le point de vue de Gina, cette aînée d'une fratrie de trois enfants réagissant de manière différente aux sottes d'humeur de leur père. Malgré ses 15 jeunes années, elle va devoir se battre pour que le monde comprenne Jimmy et soit plus indulgent avec lui. Gina va consacrer toute la fougue que l'on peut témoigner à l'adolescence, non pas pour vivre une histoire d'amour avec un garçon, mais pour que l'amour qu'elle témoigne à son père puisse l'aider à aller mieux. Et à la manière d'un amour adolescent, cet amour est parfois irréfléchi, illogique, mais beau parce que totalement pur. Le garçon de la fable arrivera de lui-même dans l'équation. Habitant le même immeuble que la famille de Gina et témoin passif des événements, sensible à ses malheurs et se retrouvant dans l'insensibilité de l'adolescente, il va l'aider à rendre son quotidien plus facile.
C'est grave.
C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants.
Je peux pas lui faire ça.
Il sera très bien soigné.
Malgré une esthétique très épurée, on se rend compte que l'appel de la forêt de Jimmy est traduit à l'écran à la façon d'un conte. Jimmy parle aux animaux, ramène un lapin à la maison, va chercher du bois la nuit et perd ses enfants, tout obnubilé qu'il est par ses déambulations champêtres. Mais la vie n'est pas un conte de fées et, au délire provoqué par les troubles mentaux, viennent s'entrechoquer les basses réalités matérielles du quotidien le plus froid qui soit. Malgré le fait que l'amour d'un père pour ses enfants, et vice-versa, peut déplacer des montagnes, il n'en faut pas moins payer les factures, contenter les créanciers et mettre du pain sur la planche. C'est sur cette opposition entre rêve et réalité que la réalisatrice va particulièrement mettre l'accent. Si le monde moderne est aliénant, pourquoi ne pas céder aux sirènes de la folie ? Si le béton est trop sombre, pourquoi ne pas aller se ressourcer au vert comme si demain n'existait pas ? Et tant que la famille est heureuse, pourquoi ne pas continuer à nier la réalité ? Hélas, poésie ne rime pas vraiment avec maladie et cette dissonance ne peut que se conclure dans une impasse. Alors, certes, le cas médical de Jimmy ne laisse pas beaucoup d'espoir pour sa famille et aux spectateurs de pouvoir vivre donc une vie normale et saine, mais ce n'est pas pour autant que Véro Kratzborn fait complètement basculer le récit dans une réalité terne. Même si elle ne laisse aucun doute quant au sérieux des troubles du père, épuisant son entourage et devant être interné, l'histoire ne se conclut pas de manière sinistre. Elle amène au contraire à un certain apaisement, bien concret celui-là, avec la naissance d'un joli amour adolescent. En quelque sorte, les graines de Jimmy ont bien germé et l'esprit de sa famille va connaître un nouvel essor grâce à sa fille, son plus beau fruit, qui va incarner le meilleur des deux mondes. La forêt de mon père est l'occasion de voir un Alban Lenoir plus sensible qu'à l'accoutumée, lui qu'on avait plutôt l'habitude de croiser dans des productions plus musclées comme Anti-Gang, Goal of the Dead, Balle perdue ou encore Marianne, l'excellente série fantastique Made in Bretagne saluée par Stephen King lui-même à l'automne dernier. Il renvoie la balle à une Ludivine Sagnier qui n'a pas un rôle facile, celui d'une mère perdue entre obligation et amour de son mari, et la jeune Léonie Souchot, notre jeune Gina, qui est la véritable héroïne de la forêt de son père. Un lieu qui est donc agréable à visiter en dépit des orages qui grondent au-dessus des cimes.
Tu vas te renfermer, c'est ça la vérité.
Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est facile pour moi? Gina!
Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père? Ah
ah, tu crois que je serai comme papa?
La forêt de mon père est dans les salles depuis le 8 juillet, comme tous les films chroniqués ici.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
Ainsi s'achève Cinérama, formule estivale. On se retrouve la semaine prochaine sur le même modèle. Des blind tests pour s'amuser et l'actu des sorties. Bel été.
This is Cinerama.